Donc commencer par une question, et c'est le titre de ce message, du message de ce matin. Dieu m'a-t-il parlé ? C'est une question importante qu'il faudrait se poser souvent, je dirais très souvent, je dirais même quotidiennement. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que l'on n'y fait pas attention. Vous connaissez ce passage, c'est pas forcément dit tout à fait pareil, mais j'ai fait exprès de prendre des mots qui sont peut-être un peu plus actuels. C'est dans Job au chapitre 33, si vous prenez des notes, au verset 14. Dieu nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que l'on n'y fait pas attention. Je crois que ce qu'il est important de savoir, c'est peut-être évident, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est que Dieu va nous parler principalement par sa parole, la Bible. Dieu nous a permis, il a permis que ce livre soit constitué, inspiré par son esprit. Et justement par son esprit aussi en nous, Dieu va nous parler également. Puisque l'esprit de Dieu, voilà, c'est ce que nous l'avons chanté tout à l'heure. L'esprit de Dieu nous conduira, c'est ce que Jésus a dit. Et son esprit veut nous conduire, il veut éclairer la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Il veut éclairer nos cœurs, il veut nous parler directement aussi. Voilà, je pense que c'est les moyens privilégiés par lesquels Dieu s'adresse à nous. Il ne faut pas l'oublier, voilà, c'est la lecture de la parole de Dieu, la compréhension de sa parole, son esprit en nous qui nous illumine. Mais nous voyons justement dans la Bible que Dieu parle aussi de plein de façons différentes. Je vais les lister, et ce n'est pas exhaustif. Il parle aussi de façon audible, par des rêves ou des visions. Dieu parle par la souffrance, par l'intermédiaire des hommes, qu'ils soient pieux ou impies. Oui, Dieu peut se servir de quelqu'un qui ne croit pas en lui, mais finalement de se servir de lui pour parler à nos cœurs ou pour parler à quelqu'un. Il parle par des anges, il parle par la nature, par sa création, par les circonstances que l'on peut vivre. Et Dieu peut même parler par le silence. Et ça nous gêne parfois. Alors s'il y a plusieurs moyens que Dieu utilise pour nous parler, il y a aussi plusieurs réactions que nous pouvons avoir quand Dieu nous parle ou quand Dieu nous a parlé. Alors je vais citer trois exemples, je dirais, principaux. Le premier, donc imaginez, Dieu nous a parlé, nous avons saisi clairement sa parole, mais nous n'en tenons pas compte, nous ne voulons pas nous y soumettre, nous vivons comme s'il ne nous avait pas parlé. Bon, je dirais que c'est pas l'attitude que nous devrions avoir. Alors, on a un bon exemple dans la parole de Dieu, hein, de quelqu'un qui s'est comporté comme ça, c'est Jonas. Il reçoit une parole précise de la part de Dieu. Il y avait, je dirais, c'était très clair, très précis. Et puis, il ne fait pas ce que Dieu lui dit, mais en plus de ça, il fuit à l'opposé de ce que lui demande, de ce que Dieu lui demande. Un deuxième exemple de comment nous pouvons nous comporter, c'est Dieu nous a parlé, mais nous ne l'avons pas remarqué, ou nous ne l'avons pas compris comme étant une parole de Dieu. Voilà, ça peut arriver. En soi, ce n'est pas grave, parce que je pense que Dieu sait nous faire comprendre les choses quand il veut nous parler, bien sûr. Il est tout puissant, il nous connaît, il sait comment nous parler. Voilà. Mais parfois, soit on n'est pas attentif, soit etc. Et peut-être on ne comprend pas que Dieu nous parle. Et puis, une troisième situation, je dirais le meilleur pour la fin, heureusement. Dieu nous a parlé, nous le savons, et nous saisissons cette parole pour l'appliquer dans notre vie. Et ça, c'est pour nous qui l'avons vécu, bien sûr, et qui le vivons encore, parce que c'est quelque chose qui doit perdurer toute notre vie, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui nous bénit, qui nous fait aller de l'avant, qui vraiment construit notre vie. Et je vais citer le psaume 119, verset 11, un passage qu'on connaît bien. « Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Amen, c'est l'attitude, je pense, qu'il nous faut avoir. Et alors, pourquoi est-il si important de discerner quand Dieu s'adresse à nous ? Ben, je dirais premièrement, si Dieu s'adresse à nous, ce n'est pas pour rien. S'il prend la peine de nous parler, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est important. Son désir, c'est que sa parole, que par sa parole, la foi naisse en nous et qu'il y ait des répercussions positives, concrètes, dans notre vie et celle de ceux qui nous entourent. D'ailleurs, comment pourrions-nous exercer notre foi si Dieu ne nous parle pas ? La foi, ce n'est pas croire en ce que l'on s'imagine, en ce que l'on aimerait, en ce qui nous plaît, en un idéal inaccessible. Je dis non, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai et va s'accomplir. Agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Alors maintenant, on va lire toujours dans 1 Samuel, au chapitre 13 et au verset 4. Ce qui s'est passé plus loin, et je pense qu'on connaît tous ce passage. Chapitre 13, verset 4. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Micmac, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal au milieu de son armée, qui tremblait d'épouvante. C'est pas très joyeux. Hein, je ne sais pas comment on aurait vécu cette situation personnellement. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmac, je me suis dit « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. » Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Puis Samuel le quitta et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. » Voilà, nous arrêterons la lecture là. Ce que je voudrais dire, déjà dans un premier temps, après cette lecture, je pense qu'elle est suffisamment compréhensible par elle-même, mais c'est que Saül a été très léger vis-à-vis de Dieu. Alors premièrement, tout simplement, il a désobéi à la parole de Dieu transmise par Samuel. On l'a lu tout au début, hein, et ce message était très clair, un peu comme je disais pour Jonas. Le message était très clair, on ne pouvait pas dire est-ce que c'est bien ça ou c'est ça. Saül avait reçu un message très très clair. « Tu me précéderas à Gilgal, ou je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. » Mais face aux circonstances qui n'étaient pas favorables, Saül a voulu prendre lui-même la situation en main et n'a pas fait confiance en Dieu. Alors c'est vrai qu'on a lu le contexte, vous avez vu, c'est quand même compliqué. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais s'il n'y avait eu que ce problème, à la limite, peut-être que les choses auraient pu changer. Le problème, c'est que Il y a un deuxième problème, c'est sûrement le plus critique, c'est que Saül se perd en excuses devant Samuel quand il arrive. Et dans ses propos, on ne voit pas le moindre soupçon de repentance par rapport à Dieu. Saül n'a pas reconnu sa faute, et toutes les suivantes, il est resté dans cette position d'orgueil sans se repentir de ses péchés jusqu'à sa mort. Et vous connaissez ce passage aussi, je pense, dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 6, c'est important de le dire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je voudrais souligner quelque chose, parce qu'en fait, ça nous arrive à tous de nous rater, et nous parlerons tout à l'heure de David en suivant, ce sera notre deuxième point. Mais vous savez, Saül, on peut dire que finalement, il a vraiment mal agi, etc. Mais quand on considère la vie de David, on voit que potentiellement, David a fait des péchés, je dirais, aux yeux des hommes, hein, parce que bien sûr, il suffit d'un péché pour nous éloigner de Dieu, mais des péchés très graves, des choses vraiment, pour lesquelles il aurait dû mériter la mort, David. Et pourtant, il a eu cette confiance en Dieu, il s'est repenti, il a eu aussi cette confiance en Dieu que Dieu était bon et pouvait le pardonner également. Même s'il a eu des conséquences suite à ses péchés. Le péché engendre toujours des conséquences. Et donc, ce que je voudrais que l'on comprenne ce matin, c'est que Dieu aurait voulu faire grâce à Saül. C'est vrai que ça ne paraît pas dans le passage, mais c'est sûr que Dieu l'aurait fait si Saül avait reconnu ses fautes au moment où Samuel lui a parlé de la part de Dieu, ou plus tard, si lors d'un autre moment, il s'était humilié devant Dieu, etc. Peut-être qu'il aurait perdu quand même sa royauté, mais il aurait été restauré auprès de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé d'accès auprès de Saül jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, Saül est resté dans cette position d'orgueil et n'a pas souhaité vraiment se repentir devant Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que à nous aussi, Dieu veut faire grâce avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que pour la plupart ici, je l'espère, nous avons vraiment fait ce pas de foi. Il n'y a que Dieu qui le sait, bien sûr, dans nos cœurs, que nous avons vraiment demandé à Dieu de nous pardonner nos péchés, nous sommes repentis, nous avons accepté sa grâce. Il nous a parlé en la personne de Jésus, son Fils, qui est venu pour nous sauver. Mais peut-être ce matin, si quelqu'un découvre la foi, si quelqu'un s'approche de Dieu, je voudrais donner ce conseil. Fais-le humblement, en reconnaissant que tu n'es pas digne d'aller vers lui, car il veut te faire grâce. Parfois, on a l'impression que s'abaisser, s'humilier devant Dieu, c'est quelque chose qui va nous, quelque part, nous faire du mal. Mais non, bien au contraire, Dieu veut nous faire grâce, il veut pardonner nos péchés, il veut nous faire de nous son enfant, il veut, comme nous l'avons chanté, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Et je voudrais dire aussi, si jamais quelqu'un ici, ce matin, a donné son cœur à Dieu dans le passé, mais qu'aujourd'hui, si aujourd'hui tu es empêtré dans le péché à nouveau, reviens à lui humblement. Il te pardonnera. Il te restaurera. Amen. Oui, je le crois. C'est aussi simple que ça. Parfois, nous compliquons les choses. Mais s'il faut revenir à Dieu, bien, revenons à Dieu. Il nous pardonnera dans sa grâce. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons continuer par ce deuxième point. Nous allons parler de David. Un homme pour qui la parole de Dieu a beaucoup de valeur. C'est vraiment en contraste avec Saül. Alors, on va lire au premier livre des Chroniques, au chapitre 17 et au verset 1. 1 à 6 dans un premier temps. 1 Chronique. Ah oui. Excusez-moi. Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en penses-tu ? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'Alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ce jour-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle, allant d'un emplacement à un autre, pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël. Ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ? » On va passer au verset 11, pour raccourcir un peu la lecture. « Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple, et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. » Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'ai un peu analysé ce passage, et c'est vrai. David et Nathan, quand on regarde ce qui se passe, de façon, on prend un peu de recul, là, de façon simple, David et Nathan n'étaient absolument pas dans le coup. Ils étaient vraiment à côté de la plaque. J'ai envie de dire, pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu et le prophète de Dieu. Donc, j'imagine que, voilà, dans le pays, c'était peut-être les personnes les plus considérées, pour qui on estimait qu'ils étaient proches de Dieu, etc. Voilà. Et pourtant, ils étaient complètement à côté de la volonté de Dieu, dans leur intention. David, je dirais, est allé un peu vite en besogne. Il veut construire la maison de Dieu sans en parler à l'intéressé. Puis il demande à Nathan qu'est-ce qu'il en pense. Et Nathan répond favorablement sans consulter Dieu. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que ce que je peux penser, moi, personnellement, ce que les autres pensent, finalement, ce n'est pas vraiment important. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Je dirais, juste pour dire, David et Nathan, je ne suis pas en train de dire que David et Nathan ont péché dans leur attitude. Je pense qu'ils avaient une bonne intention, un bon cœur. Voilà. Mais le projet a beau sembler merveilleux, construire la maison de Dieu. Alors j'ai envie de dire comme les jeunes aujourd'hui, waouh, c'est stylé. Construire la maison de Dieu, vous imaginez ? Vous vous dites ça ? Parce que nous, ça, voilà, on connaît ce passage, du coup on le lit comme ça, mais je vais construire une maison pour Dieu. Et puis, on voit Dieu qui répond, c'est quand même assez marrant, en disant, mais moi j'ai pas besoin de ça. De toute manière, dans une tente ou dans un temple, ça change rien, sa présence, elle peut se manifester, bien sûr, mais il est tout puissant, il tient l'univers dans sa main. Qu'est-ce que quelques pierres ? C'était un beau projet. C'est quand même un beau projet quelque part. Mais c'est vrai que cela nous fait réfléchir comment nous devons considérer finalement les projets que nous voulons mener. Posons-nous chaque fois la question, Dieu m'a-t-il parlé avant de m'engager dans cette voie ? Alors, c'est vrai que David et Nathan, ils étaient proches de Dieu, ils étaient dans un bon état de cœur, donc Dieu leur a parlé. Ils ont rectifié tous les deux. Dieu est patient envers nous, heureusement. Les deux, je dirais, se sont bien rattrapés. Nathan a bien restitué la parole de Dieu à David. Ça, c'était très important que Nathan puisse restituer cette parole fidèlement. Et puis David la recevra fidèlement, surtout. Lui qui était le roi, il aurait pu s'offusquer, il aurait pu se braquer, s'enorgueillir. Mais il a reçu cette parole favorablement. Alors, l'histoire continue. Dans 1 Chronique, toujours au chapitre 22, David va s'adresser à son fils, Salomon. Au chapitre 6, chapitre 22, verset 6, excusez-moi. Puis il fit venir son fils Salomon et lui ordonna de construire un temple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui dit, mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Mais l'Éternel m'a parlé en ces termes, tu as fait couler beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres à cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre. Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur. Mais il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon, le pacifique. Et durant toute sa vie, j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. Ce sera lui qui bâtira un temple en mon honneur. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je maintiendrai pour toujours le trône de sa royauté en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi afin que tu réussisses à bâtir le temple de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit à ton sujet. Oh, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence pour obéir à la loi de l'Éternel ton Dieu lorsqu'il t'établira sur Israël. Oui, tu réussiras si tu veilles à obéir aux ordonnances et aux lois que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Belle parole d'encouragement. Et dans ce qu'il dit à son fils, nous pouvons voir que David a écouté et accepté la parole de Dieu. Il s'est résigné à ne pas construire le temple, comme Dieu lui a dit. Et il dit ouvertement que Dieu s'est opposé à lui. Ça montre sa position aussi d'humilité lorsqu'il dit « Mais Dieu m'a dit ». Et ça montre qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Et ce qui n'est pas le cas de tous, vous voyez l'exemple de Saül juste avant, mais on pourrait en citer d'autres dans la parole de Dieu, ou même des cas personnels que nous connaissons, ou même nous-mêmes, hein, quand parfois on s'est opposé à Dieu, puis finalement on a cédé. Voilà, David aussi a dû demander à Dieu pourquoi il ne pouvait pas construire le temple, parce que dans la première réponse que Nathan a apportée à David, ce n'était pas mentionné, et Dieu lui a répondu, il ne pouvait pas être à la fois celui qui construit une demeure sainte pour le Dieu de la vie, et en même temps, celui qui a supprimé la vie de plein d'hommes. Et là, je voudrais qu'on s'arrête juste quelques secondes, c'est important. De la même manière, n'hésitons pas à poser des questions à Dieu afin d'entendre sa parole. Je crois que des fois, on oublie. Tout simplement, il y a une situation qui nous gêne, quelque chose qui ne peut pas se passer, etc. Et parfois, on oublie tout simplement de demander à Dieu pourquoi. Parle-moi, que je comprenne, que je puisse ainsi comprendre ta parole, comprendre ta volonté et l'appliquer à ma vie et grandir, progresser encore davantage. Je crois que c'est vraiment important de poser ces questions. On le voit un peu dans les psaumes, vous savez. Il y a beaucoup de psaumes où on voit des paroles qui sont lancées à Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément la réponse derrière. Mais Dieu répond, et parfois on voit que, justement des psaumes de David, on voit qu'il pose beaucoup de questions, et on voit que Dieu lui a répondu, hein, au fil de l'histoire de David, on peut voir que Dieu est intervenu en tout cas, Dieu l'a secouru. Et voilà, ça je voudrais vous encourager, nous encourager, parce que je dois le faire également, on doit tous le faire, à poser ces questions à Dieu, bien sûr avec respect, avec si on est dans la souffrance, des fois on peut peut-être poser des questions un peu brutal, je dirais, on en voit aussi dans les psaumes. Hein. On voit des choses vraiment, vraiment fortes, quand même, la façon de parler à Dieu. Mais voilà, qu'il y ait ce cœur à cœur avec Dieu, cette honnêteté, et que l'on puisse vraiment poser ces questions pour progresser. Afin, je le rappelle, le but, c'est d'entendre Dieu nous parler. Alors, entendre, ce n'est pas forcément audible, comme je le disais, ça peut être de bien des manières. Dieu sait nous parler, mais que nous puissions savoir ce que Dieu veut nous dire. Et après, je voudrais juste rajouter aussi. Méfions-nous de ce que nous avons à cœur. Parce qu'avoir à cœur quelque chose ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est très clair dans ce passage. Il est dit, mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même. Et puis plus loin, mais l'Éternel m'a parlé en ces termes, etc. Voilà. Vous avez compris. Et c'était mentionné aussi dans le premier passage que nous avons lu. Alors, David, donc, il y a eu cet échange avec Nathan, Dieu lui a parlé, il a parlé à son fils, et ensuite, ce n'est pas fini. David est allé encore plus loin, puisqu'on voit dans 1 Chronique au chapitre 28, c'est au verset 1. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi, j'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. » Alors on s'arrêtera là, on pourrait continuer, on retrouve les éléments que l'on a lus précédemment, qui ont été dits notamment à Salomon. Et là, ce qui est frappant, parce que c'est pareil, ça paraît évident, mais dans le contexte de l'époque, le roi, alors surtout, je dirais, peut-être pour les nations païennes, mais le roi, c'était le Tout-Puissant et il était considéré comme Dieu, hein, on le voit un peu avec Pharaon, etc. Mais David, lui, n'a pas hésité à se rabaisser devant la parole de Dieu, en public, devant tous les chefs d'Israël. Lui, le roi du pays. Voilà, il a dit, moi j'avais un projet, mais Dieu m'a dit, ce projet, c'est pas celui-là que tu dois faire. Oui, la parole de Dieu avait beaucoup de valeur pour lui. À partir du moment où David savait que Dieu lui avait parlé, eh bien, il faisait tout pour accomplir, pour obéir à ce que Dieu a dit. Bien sûr, il n'a pas eu une vie parfaite. Nous avons tous des aléas, voilà, des choses qui viennent, qui nous empêchent, enfin, voilà, des fautes que nous pouvons commettre, pardon. Mais l'important, c'est d'avoir cette attitude que David avait, c'est toujours d'avoir cette confiance en Dieu, c'est que dès qu'il s'est aperçu de son péché, de se repentir et de considérer la parole que Dieu lui avait dite. Et alors, même, je dirais que David ne se rendait même pas compte. Il avait, c'est vrai, beaucoup, je dirais, dans son esprit, voilà, beaucoup de la parole avait beaucoup de valeur pour lui, mais il ne se rendait pas compte quelle valeur elle pouvait avoir. Parce que quand on regarde la parole de Nathan, le prophète, en fait, elle ne concernait pas Salomon. Elle concernait Jésus, le Fils de Dieu. Et Salomon bâtira le temple, c'est vrai. Son règne sera un règne de paix, c'est vrai. Mais combien imparfait, quand on connaît un peu la vie de Salomon, on sait, voilà, les choses et le déclin un petit peu là de sa relation avec Dieu. Et son règne a été imparfait et aussi éphémère. Et même le temple a été détruit plus tard, ce fameux temple qui a été construit. Et pourtant, on va le relire, ce que Nathan a transmis à David. Il est dit, « Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, c'est l'un de tes fils, pour te succéder comme roi, et j'affirmerai son autorité royale. » C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son trône. Or, le trône des rois d'Israël n'a pas été maintenu. Toujours. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus est le Fils de Dieu. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Salomon, au moins, on ne sait pas exactement si à la fin de sa vie, il a eu un sursaut de foi, mais on sait qu'il a abandonné Dieu au moins pendant une période. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. À perpétuité pour l'éternité. Voilà, c'est ce commentaire pour faire une transition vers notre troisième point. Ce sera Jésus. Jésus, notre exemple. Jésus, c'est la parole faite chair. C'est la vérité. Il est le Fils de Dieu, bien sûr. Mais il est la parole faite chair, il est la vérité. Alors c'est intéressant de se poser la question, comment Jésus considérait la parole de son Père? Et nous lirons deux passages aussi très connus. Jean, chapitre 5, verset 19. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà, pour Jésus, la parole de Dieu a tellement de valeur qu'il ne peut pas faire quelque chose d'autre, ou le faire un peu moins, un peu plus, non, il fait exactement ce que son Père lui recommande. On retrouve aussi cette notion-là dans Jean chapitre 6 au verset 38. « Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Heureusement que Jésus a fait ça, pour que nous soyons sauvés un jour par son œuvre. Alors ensuite, comment, sur la base de sa parole, j'ai un peu juste réfléchi comment Dieu avait agi et juste posé deux questions. Est-ce que Jésus est allé prêcher aux quatre coins du monde? D'après vous. Je sais, je fais exprès, bien sûr, d'attendre la réponse. Hein. Bien sûr que non. Est-ce qu'il pouvait le faire? Bien sûr. Jésus ne l'a pas fait parce qu'il a accompli la mission que Dieu lui avait demandée, mais bien sûr qu'il aurait pu le faire. Par contre, il a dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est par son œuvre, voilà, que nous pouvons, c'est vrai, répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Une deuxième question. Est-ce que Jésus a fait les plus grandes œuvres sur terre? Je vous laisse pas mariner, mais vous l'avez la réponse. Non. Alors, je nuancerai juste après. Mais voilà ce que Jésus a dit. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Alors, ce qu'il faut nuancer, c'est que Jésus, en tant qu'être humain, on est d'accord, bien que restant fils de Dieu, hein, mais il a pris une forme d'être humain, hein, Jésus, en tant qu'être humain, a accompli parfaitement la mission que son Père lui a communiquée, mais rien de plus, rien de moins. Et bien sûr, quand quelqu'un prêche la parole, témoigne, etc., c'est au nom de Jésus-Christ, et c'est par le Saint-Esprit, donc finalement c'est quand même Jésus qui le fait. Mais voilà, je ne voudrais pas non plus passer de mauvais messages. Mais vous savez, comme David a préparé tous les matériaux, ou une grande partie des matériaux en tout cas, pour que le temple soit réalisé, de la même manière, Jésus a tout accompli, a accompli parfaitement cette mission afin que la pierre angulaire, vous savez, soit posée. Et il a tout accompli, il a tout préparé afin que l'Église puisse être construite. Et l'Église, elle est construite bien par nous, par l'aide du Saint-Esprit qui est avec nous Et Jésus, c'est notre modèle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons aspirer à lui ressembler. Je me permets d'insister, d'aspirer à lui ressembler, ça veut dire son attitude envers la parole de Dieu, envers la parole de son Père. Nous devons la reproduire. Nous devons vraiment discerner quelle est cette volonté de Dieu, cette parole, ce que Dieu veut nous dire personnellement. Bien sûr, il y a des choses qui sont valables pour l'Église, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment personnelles. Dieu nous demande quelque chose en particulier à nous. Et nous devons reproduire cette qualité de relation que Jésus avec son Père avait. Bien sûr, ce sera impossible de l'avoir, je dirais, complètement sur cette terre, bien sûr, parce que nous sommes humains, nous avons notre chair, etc. Mais nous devons réaliser comment Jésus a agi, comment Jésus s'est comporté finalement et l'imiter. C'est notre exemple par excellence. Ça ne peut pas être autrement. Alors nous arrivons à la conclusion. Et je vais poser encore deux questions. Veux-tu que Dieu te parle comme il parlait à Jésus, son fils? Veux-tu pouvoir dire « Dieu m'a parlé » ? C'est vrai que notre connaissance de la parole de Dieu, elle n'est que partielle. Et nous devons sans relâche continuer à méditer sa parole, la Bible, et prier afin que Dieu nous remplisse de son esprit qui nous conduira. Mais au plus nous connaîtrons la parole de Dieu, au plus nous serons à même de faire les bons choix, qu'il s'agisse de grands choix déterminants pour notre vie, ou bien des micro-décisions quotidiennes. Parce que parfois on pense qu'au grand choix, est-ce que je vais choisir le bon conjoint, est-ce que je vais avoir le bon travail, est-ce que je vais m'installer au bon endroit, etc. Mais finalement, le quotidien est aussi important, voire peut-être plus, parce que la dérive peut être rapide, en fait, et nous devons vraiment chaque jour, quelque part, on peut arbitrer entre le bien et le mal dans nos vies et dans nos cœurs. Et pour arbitrer, il nous faut connaître la parole de Dieu, il nous faut connaître la vérité. Cette épée qui va séparer, jointures et moelles. Vous connaissez le texte. Et ça, ce que je viens de dire, je ne vous apprends rien, mais ce que je voudrais laisser sur votre cœur, sur notre cœur ce matin, c'est que lorsque nous venons vers Dieu, il faut que nous soyons dans une disposition qui permet à Dieu de nous parler. Il faut que nous soyons assoiffés d'entendre Dieu nous parler personnellement. Il faut que nous supplions sincèrement notre Père Céleste de nous ouvrir les yeux. Il faut que nous considérions qu'entendre Dieu nous parler, c'est le bien le plus précieux qui soit. Il faut oser poser certaines questions aussi à Dieu, si nous voulons progresser, grandir, avancer. Il y a certaines choses, on n'ose pas poser la question parce qu'on a peur de la réponse. Et on a peur d'entendre la vraie parole de Dieu. Saül n'a pas posé la bonne question à Samuel. Il s'est justifié, il a essayé de dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il n'a pas parlé à Samuel comme si c'était l'homme qui représentait Dieu, en fait. Et nous, dans notre relation personnelle, c'est certainement dans notre chambre, dans le lieu secret, posons ces questions à notre Dieu sur peut-être telle activité. Est-ce que je dois toujours faire ça? Peut-être est-ce que je dois en faire moins? Est-ce que je dois en faire plus, peut-être dans certains cas aussi. Qu'on puisse oser poser ces questions qui nous dérangent quelque part. Mais si Dieu nous parle, si Dieu nous confirme concrètement, oui, ça, si Dieu nous dit, ça je te confirme, continue, oui, continue dans cette voie, s'il nous dit, non, ça, arrête-le, tu vois, ça, c'est un péché, tu ne t'es pas rendu compte, mais arrête ça. Et nous serons vraiment heureux, épanouis, parce que nous comprendrons vraiment la parole de Dieu et nous l'appliquerons à notre vie, il n'y aura pas d'équivoque, nous serons dans l'assurance. Et cela, bien sûr, demande du temps. Cela demande aussi, quand nous approchons de Dieu, de laisser de côté nos beaux projets, Parce que parfois, on a ces choses-là en tête, et puis, voilà, des fois, c'est juste des rêves d'ailleurs, c'est presque pas des projets, ça peut être des rêves. Parfois, on a des projets qui sont en cours ou autres, et Dieu peut nous demander aussi de les arrêter. Parfois, Dieu peut nous demander de démarrer de nouveaux projets, bien sûr. Ne cherchons pas à trouver des justifications à nos raisonnements, à nos pensées, comme je le disais un peu tout à l'heure. Soyons prêts à entendre que Dieu n'est pas en accord avec notre volonté, notre désir. Vous voyez, David, il a accepté cette parole qui est venue. Le contredire. Croyons que Dieu aussi veut répondre à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et donc, s'il y a quelque chose qui nous tracasse, quelque chose qui ne va pas, ben, prions, parce que demandons à Dieu de nous parler, parce qu'il va le faire, il veut nous bénir, il veut nous faire grâce. Voilà, et cette démarche, elle doit s'inscrire dans la durée. J'ai envie de dire, ne jouons pas aux devinettes sur la volonté de Dieu, mais simplement attendons que Dieu nous parle, tout en sachant que le silence de Dieu nous parle aussi. Il nous dit, attends patiemment, persévère. Voilà, je souhaite le redire. Le silence de Dieu nous parle, il nous dit, attends patiemment, persévère. Vous avez vu Saül, il n'a pas attendu. Il a attendu, mais il s'est impatienté à un moment donné. Voilà, nous ne serons, je pense, jamais aussi satisfaits et épanouis que lorsque nous pourrons dire « Dieu m'a parlé ». Et personnellement, c'est des prières que je répète, et des fois, ce n'est pas forcément, je dirais, ici, dans ce lieu, des fois, ce n'est pas forcément dans ma chambre, des fois, c'est simplement dans ma journée. « Seigneur, j'ai soif que tu me parles, j'ai soif que tu me diriges, j'ai soif que tu me guides. » Il faut que ce soit quelque chose qui soit continuel, qui soit là, présent comme ce feu qui brûle en nous. Il faut que nous ayons cette soif de voir Jésus vraiment orienter notre vie, de demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Oui, je crois que nous serons jamais satisfaits et épanouis que lorsque nous pourrons dire « Dieu m'a parlé pour tel ou tel domaine de notre vie, pour le salut d'une âme », parce que bien sûr, on ne pense pas qu'à nous, et notre désir, c'est que Dieu nous parle aussi pour le salut, pour que nous puissions apporter une bénédiction, que nous puissions être un vecteur de délivrance pour une personne que nous connaissons dans notre entourage et qui n'a pas la grâce de Dieu encore. Oui, je ne veux pas oublier sa parole, parce que c'est vrai, quand il nous aura parlé, il ne faut pas l'oublier. Et je veux accomplir ce qu'il m'a demandé de faire. Amen. Voilà, nous allons prier simplement, et ensuite nous prendrons le repas du Seigneur. Alléluia. Jésus, quelle grâce de te connaître et de t'appartenir, c'est vrai. C'est vrai que tu le sais, quand je préparais ce message, je me disais parfois, oui, certaines choses sont évidentes, ou nous les connaissons, mais je te prie, Seigneur, afin qu'elles descendent dans nos cœurs. Je prie afin que, réellement, Seigneur, tu puisses susciter dans le cœur de chacun de nous, et moi le premier, cette soif, ce désir profond, ce désir qui vient du fond de nos tripes, d'entendre ta parole, de connaître ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos situations, tu connais nos combats, tu connais nos difficultés, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, nos situations bien différentes les unes des autres. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons trouver en toi vraiment une réponse à tous nos besoins, Seigneur Jésus. Et je te prie, afin que nous soyons vraiment obnubilés, Seigneur, par le fait que tu puisses nous parler, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous voulons ne pas être mystiques, mais nous voulons, Seigneur, simplement patienter parfois si nous n'avons pas de réponse, mais nous voulons être certains de cette parole pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir, c'est vrai, la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta patience envers nous. Merci, Seigneur, pour toutes tes réponses, pour toute ta parole, Seigneur, pour tes silences même. Merci, Seigneur, parce que même tes silences, Seigneur, tu restes toujours avec autant d'amour pour nous, Seigneur. Tu fais le meilleur pour nous, Seigneur. Et nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus, vraiment que nous voulons dire que ta parole est chère à nos cœurs, que nous ne voulons pas pécher contre toi, Seigneur Jésus, que nous voulons être prêts, comme nous l'avons chanté, prêts à partir avec toi dans le ciel. Oui, parce que nous ne serons pas restés sur une position d'orgueil, mais nous aurons vraiment abandonné tout péché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour mes frères et sœurs ici présents, pour ceux qui peut-être ne sont pas là. Oui, bénis chacun là où il est et nous te bénissons encore ce matin. Amen. Alléluia.